fait. Je veux dire, c'est dans la même démarche, c'est-à-dire accueillir les enfants qui sont en difficulté. Donc c'est vraiment la même démarche. Alors il est certain que le contexte est bien différent.
Justement, vous dites que le contexte est différent. Le Père Chevrier voulait s'occuper des pauvres plus particulièrement. Qui sont les pauvres aujourd'hui ?
Bien, disons que les enfants qui nous sont confiés sont retirés aux parents par décision de justice. Donc c'est beaucoup plus pour des problèmes d'enfants en difficulté ou en maltraitance que les pauvres, comme le faisait le Père Chevrier dans le quartier de la Guillotière en 1860. Donc c'est des enfants en douleur, mais pas obligatoirement pour une question de pauvreté. C'est pour des questions de cadre de vie.
Alors du coup, je suppose que ça nécessite une pédagogie différente. Quelle formation disposent ces enfants en difficulté ?
Soit on a des secteurs qui sont scolarisés, donc c'est des instituts thérapeutiques donc qui sont avec les enfants qui sont scolarisés de façon traditionnelle, mais avec des enseignants qui ont donc cette formation d'éducateur. On a également des centres qui représentent un petit peu des centres d'apprentissage. Et puis, on a des foyers dans lesquels on accueille des jeunes, mais qui sont scolarisés à l'extérieur, dans des collèges ou des lycées, ou qui sont en apprentissage chez des artisans ou des entreprises.
Alors, le Père Chevrier, on va revenir peut-être un peu sur sa figure. Il disait avoir été saisi devant la crèche de Noël 1856, mais il est resté pendant très longtemps silencieux sur cette expérience, sur cette grâce. Était-il un homme discret ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est en 1856 qu'il a décidé de suivre Jésus-Christ de plus près. Telle était sa formule. Donc, il a commencé déjà à cette époque-là à s'occuper des enfants en difficulté ou en pauvreté. Et puis, c'est en 1860 que là, il a fait l'acquisition, disons, il a loué une salle de bal réputée malfamée qui avait fermé ses portes à la Guillotière. Il a utilisé les locaux qui existent toujours et qu'on utilise toujours pour faire une école dans laquelle il formait bien sûr les enfants à la catéchèse et à l'enseignement qu'on appelle aujourd'hui primaire.
Alors justement, quelle place a le christianisme dans la fondation ?
Alors aujourd'hui, si vous voulez, malheureusement, il a moins de place parce que même si nous sommes toujours en contact avec les pères du Prado, puisqu'on a même un prêtre du Prado qui fait partie du conseil d'administration, c'est depuis 1943 que Mgr Ancel, qui était président du Prado, a donc créé une association qui avait donc une forme laïque. C'est dans les années 1960 que les laïcs remplacent les prêtres, je vais dire, pour avoir des responsabilités au sein de l'association. Elle sera totalement laïcisée en 1970.
Et pourquoi ce changement ?
Tout simplement parce qu'il fallait répondre à des lois qui se précisaient. Quand le Père Chevrier s'occupait des enfants en difficulté, c'était de l'engagement caritatif, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lois à respecter. C'était nécessaire d'avoir des financements des autorités, c'est-à-dire telles que la protection judiciaire de la jeunesse ou telles que les conseils généraux. Raison pour laquelle, à ce moment-là, il a fallu que l'association prenne cette forme d'association classique, j'allais dire.
Alors, est-ce que ce changement, ça vous a permis d'être reconnu dans le domaine public ?
Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai, aujourd'hui, bon, on a d'excellentes relations avec la protection judiciaire de la jeunesse et avec les conseils généraux des départements dans lesquels nous sommes installés. C'est certain que pour nous, c'est aussi une nécessité pour le financement.
Donc vous fêtez les 150 ans de la Fondation. Qu'est-ce que cela représente, cet anniversaire ?
Cet anniversaire, si vous voulez, représente plusieurs choses, bien sûr, parce que ça a été très dense. D'abord, ça montre, si vous voulez, que les bases qu'avait créées le Père Chevrier étaient certainement des bases très solides pour que, j'allais dire, le système existe encore 150 ans plus tard. Ça nous a permis également, en rencontrant plusieurs fois les prêtres du Prado, à rappeler, si vous voulez, qu'en fait, tout ce qui existe aujourd'hui, même si c'est une forme laïque, ça repose quand même, d'une façon très claire, sur tout ce qu'ont bâti les prêtres du Prado autour du Père Chevrier et après lui. Et ce 150-naire nous a permis, d'ailleurs, nous avons eu le jour des 150 ans une réception très solennelle à l'hôtel du département. Et le soir, nous avons eu la célébration d'une messe à la cathédrale par Monseigneur Barbarin, accompagné d'une trentaine de prêtres du Prado. Donc il y a eu ces deux solennités dans la journée.
Vous avez dit que l'esprit du Père Chevrier était encore dans l'association. Et est-ce que voilà, vous pourriez donner quelques exemples au jour le jour de l'esprit qui est une empreinte sur la fondation?
Ben, on accueille les enfants et on essaye de les conduire sur le bon chemin qui les ramènera dans la société, si vous voulez, qui leur permettra de trouver une place. Alors, soit par une éducation purement scolaire, soit par un apprentissage, soit, j'allais dire, par un redressement psychologique aussi. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les enfants pour trouver leur bonne place dans la société. Et c'était exactement ce que faisait le Père Chevrier. Effectivement, la problématique de la jeunesse ne se simplifie pas. Il y a un engagement extraordinaire de la part des éducateurs et de l'ensemble du personnel, puisque le Prado représente aujourd'hui entre à peu près 550 employés de toutes catégories, je veux dire toutes fonctions, pour accueillir en gros 1000 enfants répartis sur les 6 départements. Et je pense que ce qui est important, c'est de montrer la solidité de l'engagement de tout ce personnel éducatif qui finalement est quelque chose d'assez réconfortant pour aider ces enfants à retrouver le bon chemin. Voilà.